voix nue. Toute cette semaine, Patrick Boudet rencontre Zep. Ce soir, je reste chez moi.
Il est traditionnel de présenter l'invité qui va nous accompagner durant la semaine en quelques phrases. Mais l'évocation de l'un de vos personnages, au risque que cela soit réducteur au regard de votre œuvre, va permettre aux auditeurs de deviner immédiatement qui vous êtes. Vous faites partie des rares dessinateurs à avoir créé un archétype, célèbre dans le monde entier, une figure emblématique de l'enfant préadolescent, Titeuf. Bonsoir Zep, nous sommes ce soir à votre domicile parisien, car votre vie a commencé en Suisse, à Genève, où vous êtes né le 15 décembre 1967 et où vous résidez toujours. À cette époque, vous vous nommiez Philippe Chapuis. Nous allons parler durant cette première soirée de votre petite enfance, hautement séminale, qui s'est déroulée dans une cité suisse. Aussi, aimerais-je savoir quelles sont les images et les impressions que vous conservez de cette époque ?
Bonsoir. Oui, une cité suisse, c'est toujours un peu bizarre parce qu'on se demande ce que c'est une cité suisse. Hein. Cité et Suisse, ça va pas tellement ensemble. Donc ouais, j'ai grandi dans une cité construite dans les années 60 qui était typique de cette époque, des barres d'immeubles. C'était des cités dortoirs en fait, où tous les adultes partaient travailler la journée et revenaient dormir et les enfants allaient à l'école. Il n'y avait pas cette image de violence qui est associée à la cité aujourd'hui. C'était plutôt paisible, en fait. Je dirais plutôt qu'on s'emmerdait. Il se passait pas grand-chose. Mais on était là, on était une bande de copains et on s'amusait entre les parkings, les quelques petits bouts de pelouse qui existaient. Et puis l'école qui nous enchantait pas tellement, mais qui était le seul point de rassemblement de la cité.
Et avant l'école, vous n'êtes pas allé à la maternelle, je crois. Vous êtes resté à la maison un certain temps.
Voilà. Ouais, moi je suis resté. En fait, j'ai commencé l'école à 4 ans et demi. Donc jusqu'à 4 ans et demi, je suis resté chez mes parents avec ma mère qui était couturière. Et c'était une sorte de monde très protégé parce que je restais dans l'appartement, je dessinais. Il y avait des livres, je pouvais. Et j'aidais un peu ma mère à faire de la couture. Et le jour où j'ai dû aller à l'école, ça me semblait être... j'avais l'impression qu'on m'expulsait de chez moi. J'avais pas du tout envie d'y aller. Et j'avais très peur d'aller dans ce monde qui me semblait peuplé d'enfants qui étaient tous plus grands que moi. Et puis bon, ça s'est passé quand même, quoi. J'ai pas pu y échapper, j'ai dû y aller. Et je pense que j'ai pris tout de suite, avec une certaine acharnement, ce rôle de dessinateur. Parce que c'était une manière de faire une place dans le groupe scolaire. Et j'ai été immédiatement le dessinateur de l'école. Donc je dessinais, à l'époque on avait ce qu'on appelait des cahiers de souvenirs, où on demandait à tous ses copains de faire un petit dessin. Et donc je faisais des poneys pour les filles, des cow-boys pour les garçons, des robots. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de dessinateur.
Votre père était policier et était le lien avec le monde extérieur qui était à ce moment-là peut-être un peu anxiogène.
Oui, assez anxiogène. Ouais. Il était à l'époque où j'ai commencé l'école. Je crois qu'il était parce qu'il a eu une carrière d'inspecteur où il a changé de service et il racontait beaucoup à midi ou le soir ce qu'il avait fait dans la journée. Il y a toute une période où il est parti parce qu'il travaillait comme garde, une sorte de bodyguard sur les avions comme ça. Donc il partait pendant 3 semaines et il revenait après avec des images de tous les pays qu'il avait visités, des petits films Super 8 qu'il faisait de Bombay ou de New York, et ça nous semblait complètement incroyable. Et après, quand j'avais 8 ans, 10 ans, il était à la brigade des mineurs, et donc il nous racontait à table à ma mère, mais on était là avec ma sœur et on assistait à ça, des histoires assez terribles, de mœurs, de meurtres, de cadavres qu'il allait pour reconnaître. Enfin, c'était pas très rassurant l'idée du monde extérieur, mais tout ça se passait à Genève, en ville, et nous on était à Aunay, qui était la cité, qui était assez loin de ça. Et on allait assez rarement à Genève pour finir. Donc je me disais, tant que je suis là, ça va. Mais effectivement, j'avais pas envie de m'éloigner trop de l'appartement familial.
Ça décuplait votre angoisse du monde extérieur ?
Ouais, le fait d'avoir passé 4 ans et demi dans un appartement, pratiquement, quand j'ai commencé à sortir tout seul et aller à l'école, ben chaque jour le monde s'agrandissait. Je réalisais qu'il y avait des rues plus loin, qu'il y avait d'autres appartements, qu'il y avait d'autres enfants, qu'il y avait eux aussi une famille, eux aussi des frères et sœurs, et qu'il y avait toutes sortes de choses qui se nouaient dans cette cité. Et on regardait la télévision, et il y avait le moment familial télévisuel, c'était le téléjournal. Donc on avait au moment du dîner, le soir, la télévision avec le présentateur qui était là et qui racontait souvent plutôt toutes les horreurs qui se passaient. Hein. À l'époque, c'était le début des années 70, donc c'était la guerre froide, il y avait la guerre, il y avait beaucoup de mouvements terroristes. Donc on entendait beaucoup ces choses-là qu'on voyait absolument pas dans la rue autour de chez nous, mais on imaginait que ça se passait. Et pour moi, c'était assez effrayant de me dire que c'était ce monde-là qui était autour de nous. Donc, je pense que j'ai eu besoin d'inventer un monde qui était plus serein, plus paisible, ou peut-être plus rigolo, simplement, à travers le dessin. Et j'ai commencé à ce moment-là, je devais avoir 5 ans, 6 ans, comme ça, à faire des petites bandes dessinées avec des personnages qui étaient très inspirés de Walt Disney, de Popeye, enfin des choses que j'aimais à cet âge-là. Et qui racontait des histoires plutôt marrantes, pas forcément jolies. Pas j'aimais bien aussi comme tous les petits garçons, j'aimais bien aussi la violence, j'aimais jouer au cow-boy, j'aimais arracher les têtes de mes personnages. Mais il fallait que ce soit drôle. Il fallait que tout ça, pour finir, ressemble un peu à une comédie.
Vous vous sentiez proche de vos parents?
Ouf, oui. Je me sens plus proche d'eux aujourd'hui qu'à l'époque, mais c'était des adultes, je les comprenais pas. Enfin, ils me semblaient très vieux, très sages, très très pétris d'expérience. Et mon père était très grand, très fort comme ça. Donc, j'avais l'impression que tant qu'il était là, on risquait rien. Mais dès qu'il sortait de l'appartement, on était un petit peu en danger. Donc, et c'était surtout ma maman qui s'occupait de nous. Donc, quand mon père venait me chercher à l'école, tout à coup, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver, que j'étais très fort. Mais ça arrivait assez rarement. Donc, souvent, le monde était plus flippant. Et il y a un truc rigolo sur l'histoire du journal télévisé, c'est que on mangeait à la cuisine sur une table ronde, et moi, j'avais la place qui faisait dos à la télévision. C'est-à-dire que tout le monde regardait vers moi. Mais tout le monde regardait à travers moi, en fait, essayait de regarder par-dessus ma tête ou sur le côté pour voir le présentateur. Et donc, je voyais ces trois têtes, mes parents et ma sœur, qui me regardaient sans me regarder. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai compris des années plus tard, mais qui m'a formé parce que je me rendais compte que les enfants parlaient pas tellement à table dans notre famille à ce moment-là. C'est-à-dire nos parents parlaient et nous, on était là, mais on prenait pas parti de la discussion. Et quand il y avait la télévision, bah effectivement, on parlait pas. Et si j'avais envie, si je devais dire quelque chose, je profitais de le dire là, parce que je savais que tout le monde hocherait la tête, mais personne n'écoutait. Genre, si j'avais fait une grosse bêtise à l'école et que je devais dire, tu sais, j'ai été puni, je le disais là, et je savais que ça passait complètement comme une lettre à la poste parce que personne n'écoutait ce que je disais. Et je pense que j'ai aussi intégré l'idée que si je voulais dire un truc fort à mes parents, j'avais intérêt à être dans la télévision qu'être autour de la table. Et des années plus tard, quand j'ai fait mon la première fois, j'ai été invité au journal télévisé parce que j'avais fait un album de bande dessinée. Ça devait pas être mon premier album d'ailleurs. Je me suis retrouvé avec le présentateur qui était un peu vieillissant, mais qui était ce présentateur déjà du journal télé à l'époque quand j'étais gamin. Et c'était marrant parce que j'étais là et je savais que mes parents étaient sur la table ronde en train de me regarder. Je disais, ben là, pour une fois, tout ce que je vais dire, ils vont l'entendre.
Le rapport que vous aviez avec votre sœur, est-ce que il était similaire à celui qu'a Titeuf avec Zizi?
Non, c'était moi Zizi en fait. C'est elle qui était la grande sœur. Alors on avait moins de différence d'âge que Titoff et sa sœur, mais on avait 4 ans de différence. C'était ma grande sœur. Je pense que à la fois je l'ai pas mal martyrisée et en même temps j'étais un peu son jouet, c'est-à-dire que moi j'étais partant pour faire plein de choses. Elle me disait on va faire ça, on va construire une cabane, on va monter un spectacle, on va se déguiser, on va se maquiller, je faisais quoi. Ça m'amusait d'avoir un compagnon comme ça à la maison qui me disait quoi faire. C'est elle qui m'a aussi beaucoup initié. Ma sœur est une lectrice compulsive, c'est-à-dire qu'elle chez elle a des murs entiers de romans qu'elle lit quasi jamais jusqu'au bout, mais depuis qu'elle est enfant, elle lit énormément. Et moi, quand j'étais, jusqu'à 20 ans pratiquement, j'ai lu que de la bande dessinée. Uniquement de la bande dessinée. Ce qui était un souci pour mes parents, parce que les professeurs, à l'époque, la bande dessinée, c'était vraiment pas bien vu, parce qu'il y avait une image de la bande dessinée qui était complètement abrutissante. Enfin, on pensait que des enfants qui lisaient de la bande dessinée seraient complètement handicapés dans leur vie d'adulte.
Achille Talon, quand même.
Il y avait Achille Talon, non. Aujourd'hui, on dirait plus ça, parce que la bande dessinée est beaucoup plus plurielle, mais à l'époque, la bande dessinée, elle était très jeunesse et adolescente. Mais effectivement, si vous lisez toutes les bandes dessinées de Goscinny, c'est génial au niveau du texte. Et puis Achille Talon de Greg. Enfin, moi, j'ai été pratiquement au premier prix de français toute ma scolarité grâce à la bande dessinée. Ce qui m'a un petit peu sauvé par rapport à mes parents, c'est-à-dire qu'ils disaient « oui, ok, les professeurs nous disent que, mais on voit que ça va scolairement, il n'y a pas de problème ». Et ma sœur, elle, m'a initié quand j'ai eu peut-être 17, 18 ans comme ça à la littérature en me disant mais ok, mais il faut quand même que tu lises d'autres choses. Donc c'est elle qui a commencé à me passer des bouquins, à me dire mais lis ça, ça aussi ça peut t'intéresser et ça dit des choses que tu trouveras pas dans la bande dessinée.
Et vous vous souvenez du premier roman que vous avez lu ?
Les premiers romans que j'ai lus qui m'ont marqué, que ma sœur m'a passé, ça doit être les romans de Kundera. Elle était très versée dans tout ce qui était psychanalyse, donc je me rappelle avoir lu des livres de Jung, de Bergeret, de Kant. Enfin, et ça m'intéressait parce qu'effectivement, ça donnait des clés de lecture à des choses que je ressentais, mais que j'avais pas étudié à l'école et ni aux Arts Déco. C'était une école de dessin, on était moins sur la littérature. Et je me rendais compte qu'il y avait un trou culturel. Et j'ai eu envie de lire ces trucs pour voir ce que j'avais raté.
L'incompréhension qu'ont les adultes vis-à-vis des enfants et inversement l'incompréhension qu'ont les enfants du mode adulte, est-ce que c'est une chose que vous avez ressentie longtemps et est-ce une chose aujourd'hui que vous ressentez vis-à-vis de vos enfants ?
Oui, j'essaie de continuer à le ressentir vis-à-vis de mes enfants. Je crois que quand on est adulte, forcément, on peut pas comprendre les enfants puisqu'on a été un enfant soi-même, mais on n'est pas un enfant de la même époque. Donc déjà, on peut pas prétendre comprendre le monde de l'enfance avec des yeux d'enfant, alors qu'on le monde a changé et on n'est plus soi-même un enfant. Quand j'étais enfant, je me rappelle le sentiment de solitude, c'est-à-dire que je me rendais bien compte que par rapport à des inquiétudes que j'avais, des détresses même, mes parents comprenaient pas. Si je leur expliquais, ils comprenaient pas l'importance que ça avait pour moi. Et donc, je leur en voulais sans doute un peu de ça, mais j'en avais fait mon parti. C'est-à-dire, je me disais, ok, bon, il y a des choses comme ça qu'on peut pas partager avec les adultes. Et en devenant adulte moi-même, j'ai oublié ça, j'ai oublié cette enfance. Et je pense que c'est normal. On va de l'avant et on regarde pas. On peut pas toujours regarder en arrière. Donc on passe des étapes. Quand on devient adolescent, on quitte l'enfance. Et ça se fait même de manière assez brutale cette adolescence parce que l'enfance dure des années. Moi, je me rappelle que le gap de l'adolescence, ça a duré. J'ai l'impression que ça a duré 2 semaines, quoi. Enfin, d'une quinzaine à l'autre, je suis passé de l'enfance à l'adolescence, et ce qui m'intéressait avait changé, ma manière de parler avait changé, mon corps changeait, tout changeait. Ma manière de dormir, de vivre, j'étais plus la même personne. Et également, quand on devient adulte, on quitte aussi cette adolescence. J'ai redécouvert l'enfance. Non pas en devenant parent, mais en par la bande dessinée, en fait, en me replongeant dans des souvenirs. Et tout à coup, il y a eu cette porte ouverte. Je sais pas si on en parle ici ou à un autre moment, mais ça a été comme une révélation pour moi. Ça a été comme une espèce d'expérience mystique. C'est-à-dire que j'étais dans mon atelier. J'avais 25 ans, 24 ans. Je faisais de la bande dessinée déjà depuis longtemps. Je développais toutes sortes de projets pour les proposer à des éditeurs, avec peu de réussite. Et j'étais en train de réfléchir à un nouveau projet. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Qu'est-ce que je pourrais trouver qui va intéresser un éditeur, intéresser un magazine? Et mon atelier de l'époque donnait dans une cour d'école. Et c'était l'heure de la récré, j'ouvrais ma fenêtre parce que les enfants faisaient tellement de boucan que de toute façon j'arrêtais de travailler à ce moment-là. Et j'entendais tous ces cris des gamins, la manière qu'ils avaient de s'insulter, d'inventer des insultes qui étaient des espèces de néologismes qu'ils comprenaient pas complètement. Enfin, donc je m'amusais de tout ça. Et tout à coup, tac, je me retrouve moi-même dans, c'est quelque chose de sensoriel. C'est-à-dire que j'ai retrouvé les sentiments de cette époque-là. J'avais l'impression d'être de nouveau le petit Philippe de 8 ans, qui avait la trouille, qui était dans la cour d'école, qui s'amusait, mais qui en même temps était un peu inquiet vis-à-vis des grands, impressionné par les filles, enfin, tout ça. Et tous ces sentiments sont remontés. Et je me suis dit, c'est incroyable. Enfin, j'avais complètement oublié ça. J'ai oublié cet enfant que j'ai été. Et c'est un monde qui est à la fois dur, cruel, c'est pas rigolo, c'est pas que ces enfants pleins d'innocence. Il y a pas d'innocence, il y a parfois une cruauté terrible à cet âge-là. Et il se joue des grandes choses, des grandes espérances, des grandes ambitions qu'on perd après. Mais les enfants, si vous les écoutez, ils ont pas envie de faire un cursus de prof, ils ont envie d'être cosmonaute, d'être aventurier, d'être acteur de cinéma, enfin de... oui, ils ont de grandes ambitions pour eux-mêmes. Ils ont envie de changer le monde. Ils ont envie qu'il y ait la paix partout. Ils ont envie d'être Miss Monde. Je sais pas, mais des choses importantes. Et j'ai retrouvé ça, l'espace de 2 minutes comme ça. Et donc j'ai pris du papier. J'ai commencé à noter plein de souvenirs qui me revenaient d'épisodes de l'enfance. Et puis pendant 2-3 jours, comme ça, dans un état un peu hypnotique, j'ai fait mes premières pages, qui étaient une sorte de journal de mon enfance. Et j'ai dessiné mon école. Alors j'ai dessiné 7 cours d'école qui étaient en bas de chez moi, et j'ai dessiné mon quartier d'enfance. Donc j'ai fait un mélange des deux. Et j'ai dessiné mes copains de classe, Nadia, qui était la fille dont tout le monde était amoureux quand j'étais à l'école primaire. Et au moment de me dessiner moi, je me suis dit, merde, si je me dessine moi, je vais vite coincer parce que j'ai noté 5-6 souvenirs. Et j'ai toujours ce problème avec l'autobiographie. On sait qu'elle est fausse. Tous les gens qui font un truc autobiographique, ils mentent à un moment. C'est-à-dire qu'on raconte, on est des raconteurs d'histoire. On utilise l'autobiographie, mais si on vous raconte strictement notre autobiographie, elle n'a pas beaucoup d'intérêt parce que il n'y a pas assez de choses communes. Donc on est toujours obligé de tricher. Donc j'ai dit, tant qu'à tricher, ok, je vais prendre un meilleur personnage que moi. Et j'avais trouvé ce petit bonhomme avec une mèche sur la tête quelques jours plus tôt pour un autre projet que je préparais sur la musique. Et je l'ai mis, et il parlait avec les autres copains qui avaient les prénoms de mes copains de l'époque. Et il avait une tête d'œuf, donc j'ai mis Titeuf, mais voilà, j'ai réfléchi quelques secondes. Et le fait de choisir ce personnage plutôt que de mettre moi, je pense que ça a été libérateur. C'est-à-dire que j'ai pu raconter tout ce que j'avais envie de dire sur l'enfance, mais comme c'était pas moi, j'ai pu en dire beaucoup plus. Et des choses que j'aurais pas osé dire si ça avait été complètement autobiographique, je me suis dit ça va faire du mal à des gens. Là, il y avait plus de raison de de pas les dire. Et ça m'a donné une espèce de liberté par rapport à la censure aussi, parce que quand je travaillais avant dans la bande dessinée, je travaillais pour un journal ou pour un éditeur, donc je disais toujours, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça va passer? Là, il n'y avait plus du tout cette question. J'étais Titeuf dans cette cour d'école et je racontais ma vie. Et je la racontais pour personne en plus, puisque c'était un journal. Donc j'ai fait comme ça des pages et des pages avec une certaine liberté sur l'enfance. Et puis après une vingtaine, trentaine de pages, je me suis dit, mais c'est vachement mieux que tout ce que j'ai fait jusque-là, parce que effectivement, il y a un souffle de vérité dedans que j'ai pas eu dans les autres choses. Donc, je me suis dit, c'est ça que je vais proposer plutôt, et c'est comme ça que ça a commencé.
Qu'est-ce qui nourrissait votre imaginaire lorsque vous avez 7-8 ans?
C'était surtout la bande dessinée, en fait. Un peu la télévision, mais pas beaucoup, parce qu'il y avait pas vraiment d'émissions jeunesse, et en plus, par une espèce de cruauté de calendrier, en Suisse, le jour de congé scolaire était le jeudi, et en France, le mercredi. Ce qui fait que toutes les émissions pour les enfants avaient lieu le mercredi, et nous, le mercredi, on était à l'école. Donc on se dépêchait de rentrer, mais on voyait que la fin des émissions qui se terminaient vers 17h, 18h, donc on avait le dernier bout, mais on savait, ah, à 2h, il y a ça, à 15h, il y a ça, et on rate tout ça. Donc c'était surtout la BD. Moi, j'adorais Spirou, Popeye. J'avais un gros livre des aventures de Donald. J'ai su bien plus tard que toutes ces aventures étaient dessinées par Karl Barks, qui est un auteur magnifique, mais à l'époque, tout était signé Walt Disney, on le savait pas. Gaston Lagaffe et Achille Talon. Achille Talon, à qui je dois ma rédemption scolaire, puisqu'il m'a permis d'avoir des bonnes notions de français. Et Lucky Luke, ouais, oui. J'ai dessiné Lucky Luke partout. J'ai dessiné sur les murs, j'avais gravé sur le bois de lit de mes parents, ce qui m'avait valu une punition. Et Lucky Luke, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ma mère a décidé que j'étais trop grand pour lire Lucky Luke. Je devais avoir 10 ans. Et donc, elle a donné tous mes albums de Lucky Luke à mes voisins. Et j'étais mortifié, quoi. Je me suis dit, mais comment elle a pu faire une chose pareille? Mais là, pour moi, c'était encore un exemple de cette incompréhension totale entre les adultes et les enfants. C'est-à-dire que j'ai même pas été plaider ma cause. J'ai juste frappé mon front avec ma main et je me suis dit, mais c'est adulte, c'est pas possible, quoi. Et donc, des années après, j'ai tout racheté à mon voisin.
Il les avait conservés.
Voilà, il avait gardé tout ce qu'il avait gardé, j'ai racheté. Le reste, j'ai retrouvé aux puces. Mais donc j'ai tout récupéré, ma collection de Lucky Luke d'enfance, qui sont des albums excellents en plus, hein, une grande partie, et à la fois ceux écrits par Maurice et ceux écrits par Goscinny, c'est des merveilles.
Est-ce que vous aviez des problèmes sémantiques enfant, comme votre personnage Titeuf, qui confond homosexuel et momosexuel, qui prend à la lettre rouler une pelle pour aborder le monde des adultes? Et une incompréhension aussi également de leur pratique, puisque il est étonné par l'usage du préservatif, l'amour physique, le téléphone rose, le sida. Est-ce que vous aviez également ce genre de difficultés quant au vocabulaire qu'utilisaient les adultes?
Complètement, ouais. Pas que sur les choses sexuelles d'ailleurs. Il y avait beaucoup de choses qui nous étaient mystérieuses. On n'avait pas une relation avec nos professeurs où on pouvait lever la main et leur poser des questions comme ça à tout bout de champ. On suivait le cours, donc toutes ces questions restaient des questions et on les débattait dans la cour de récré. Et c'était du grand n'importe quoi, parce que c'était enfin une espèce de culture composite de « j'ai entendu que, mais mon grand frère, mon cousin m'a dit que ». Donc notamment par rapport à l'amour, à la sexualité, à la puberté, on entendait toutes sortes de théories complètement... enfin, chacun y allait de sa théorie. Moi, j'ai dû en inventer aussi pour me donner une contenance, mais on disait n'importe quoi. Et effectivement, l'idée des premiers baisers, c'était quelque chose d'assez effrayant. On était assez effrayés par l'adolescence. Parce qu'on se demandait ce qui allait nous arriver. On était dans une école primaire, c'est-à-dire qu'elle s'arrêtait à 11-12 ans. Et après, on passait au lycée, où là, il y avait des grands. Mais les grands se rendaient bien compte qu'ils ne nous ressemblaient absolument pas. Ils avaient des boutons, ils avaient de la moustache, ils avaient des voix effrayantes, ils étaient immenses. Et on ne savait pas comment on allait faire pour devenir comme eux. Certains avaient envie, et moi, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas du tout envie de devenir comme ça. Et franchement, l'éducation sexuelle était très 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 rudimentaire à l'école. Moi, je me rappelle avoir eu un cours sur toute ma scolarité primaire d'une infirmière qui est venue, qui nous avait montré des diapositives avec des dessins, mais ça ressemblait vraiment à des schémas où on voyait c'était clairement un dessin d'un homme debout qu'on avait mis couché sur une femme debout qu'on avait mis couché, et il expliquait que voilà, ça c'était un couple qui était en train de faire un acte sexuel pour la reproduction. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'elle nous en quoi ça nous intéresse? On n'a pas du tout envie de se reproduire, pourquoi elle nous raconte ça? Et on n'avait pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui nous concernait dans un avenir proche. C'était quelque chose qui était pour les adultes. Et évidemment, après, il y a eu l'arrivée des premières expériences, c'est-à-dire les premières booms, ceux qui avaient embrassé avec la langue. Et au moment où... moi, j'ai eu 10 ans en fin 77, et il y a eu le film Grease qui est sorti, qui était le grand film que tout le monde allait voir. Et toutes les filles étaient amoureuses de John Travolta, et elles rêvaient toutes d'avoir une aventure amoureuse avec un mec plus grand qui était un loubard, ce qui était exactement le schéma opposé de tous les garçons de la classe. Donc ça nous a détruit tous nos espoirs. C'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à faire des booms, on est devenu immédiatement l'antimodèle du garçon dont on a envie de tomber amoureux. Donc ça nous a plombé toutes nos premières bombes, quoi. On était là, les filles dansaient entre elles, et alors si vraiment elles étaient obligées, elles acceptaient de partager un solo avec nous, mais en regardant ailleurs et en pensant à John Travolta.
Est-ce que mal prononcer les mots, c'est aussi mettre à distance la réalité qui risque de nous rattraper ?
Mais quand on est enfant, on ne fait pas exprès de mal prononcer les mots. On le faisait en toute bonne foi, c'est-à-dire qu'on pensait que ça se disait comme ça, ou on essayait des fois. On avait entendu, on n'était pas très sûr, donc on répétait le mot devant un adulte en se disant « il va peut-être nous expliquer ce que c'est ». Moi, j'ai entendu le mot draguer, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, et on m'avait dit « draguer, c'est prendre une fille par la main et marcher tout nu avec elle dans la rue ». Je dis « oh là là, mais c'est... » Donc j'avais dit à ma mère « mais maman, on est obligé de draguer quand on est grand ?» Puis elle m'a dit « mais oui, mais c'est normal, bah, autrement t'auras jamais d'amoureuse si tu dragues pas ». Je dis « oh là là ». Et j'étais pétrifié parce que... j'avais pas osé lui dire ce qu'on m'avait dit sur draguer. Donc voilà, c'est des petits malentendus comme ça qui construisent cette espèce de barrière entre l'enfance et l'adolescence qui fait qu'on a une trouille terrible de la passer.
Quelle influence a eu l'univers vu d'ici propre et calviniste du monde suisse sur votre esthétique et le développement de votre imaginaire?
Je sais pas si j'avais pas conscience de ce qu'était la Suisse quand j'étais enfant, mais ce que je prendrais de positif aujourd'hui, c'est que j'ai grandi dans un pays qui parle 3 langues, et donc on communique pas très très bien par la langue, puisque on se comprend pas d'une ville à une autre. Donc on communique beaucoup plus par l'image, et il y a une tradition de l'image très forte en Suisse. C'est-à-dire que si je compare à la France, en France, il y a vraiment une tradition dans la pub, par exemple, dans la communication, qui est par le verbe. On trouve un slogan. Les grands publicistes, c'est les gens qui trouvent des slogans. En Suisse, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'agence de pub qui trouve des slogans. C'est des grands graphistes qui ont fait des campagnes de pub qui sont des visuels. Et souvent, parlent pas français. Il y a des grands typographes qui ont réfléchi. Par exemple, beaucoup de polices de caractères qu'on utilise ont été faites en Suisse. Parce qu'il y a cette espèce de rigueur protestante, comme ça, de faire une lettre parfaite. Même si après, on va pas écrire grand-chose avec, la lettre est même pensée comme une image. Et je pense que cette culture de l'image, elle m'a aussi ouverte à la bande dessinée. Il y avait une ouverture à la bande dessinée assez forte. Mais par contre, c'est clair que c'est pas le pays de la fantaisie. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez 8 ans, 10 ans, et que vous dites que vous voulez faire de la bande dessinée, personne ne vous prend au sérieux parce que c'est un métier qui n'existe pas. On dit, mais alors après, quand on voit que le truc se radicalise, que l'enfant veut vraiment dessiner, qu'il dessine tout le temps, on dit, bah, il va être prof de dessin. Ou peut-être qu'il va être architecte, ou peut-être qu'il va être graphiste. Mais là, on est aux limites de la folie déjà. Mais la bande dessinée, c'était pas pensable.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Patrick Boudet avec Zepp. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jason Taus, réalisation Véronique Villa. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.